souffre de graves blessures à la tête. Il subit en ce moment une opération en urgence au service de neurochirurgie de l'hôpital d'Innsbruck.
Demain, à partir de 7h, matinale spéciale sur France Inter, en direct de Tunis.
Où va la Tunisie? Comment va évoluer la première révolution arabe?
Patrick Cohen.
France Inter auprès du peuple et des nouveaux dirigeants tunisiens. Le 7-9, en direct de Tunis.
Et à partir de 9h10,
Pascal Clark.
Invité, témoignage, reportage dans « Comme on nous parle » en direct de Tunis.
Matinale spéciale en direct de Tunis, à suivre demain sur France Inter, à partir de 7h.
France Inter, partenaire de l'édition 2011 du Bilan du Monde. Le Monde revient sur tous les événements marquants de l'actualité économique et sociale de l'année 2010 en France et dans 179 pays à travers des entretiens, des portraits et analyses de ses spécialistes et correspondants. Le Bilan du Monde, un hors-série à lire en ce moment et à retrouver dans les émissions de France Inter.
France Inter.
La différence.
15h04 sur France Inter, l'heure de retrouver Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Nicolas Sarkozy vient inaugurer jeudi 20 janvier le centre Alzheimer à Châtillon-sur-Indre. Déploiement de mesures de sécurité dans toute la ville. La ville sera bouclée entre 11h et 14h. Les voitures seront déviées 7 km en amont et en aval. De plus, les élèves externes du collège ne pourront pas sortir du collège entre 12h30 et 14h pour manger chez eux. Le quartier dans lequel se trouve le gymnase où Nicolas Sarkozy fera son discours est inaccessible depuis le 18 janvier 19h. Pire encore, des hélicoptères ont survolé l'école Saint-Joseph ainsi que le collège Joliot-Curie, laissant apparaître une porte ouverte avec un gendarme armé d'une mitraillette qui s'entraîne à viser en direction des écoliers. Où va-t-on ? Pire encore, les enseignants du collège souhaitaient mettre des banderoles par rapport à la suppression d'un poste à la rentrée prochaine. Les renseignements généraux ont téléphoné au syndicat. Pas de banderole, sinon descente de gendarmes au collège. De plus, la Confédération paysanne ne peut pas organiser une manifestation à 7 km du lieu où viendra Nicolas Sarkozy. Ils ont reçu un coup de fil des renseignements généraux. La manifestation leur est déconseillée, donc il n'y aura aucune action de la part de la Confédération paysanne. Je voudrais dire mon mécontentement vis-à-vis de toutes ces mesures et je voudrais conclure par cela. Qu'en est-il de la liberté d'expression en 2011? Pourquoi les citoyens ne peuvent pas exprimer leur mécontentement par rapport à la politique du gouvernement?
Bonjour Daniel, c'est Marie de Nantes. Je remercie l'auditeur qui hier a mis les pendules à l'heure en ce qui concerne le boycott des produits qui ne sont pas tous en provenance d'Israël, mais qui proviennent des territoires palestiniens occupés. Ça c'est hyper important. Par contre, je suis effarée par la haine qui sourd des propos des défenseurs d'Israël. Stéphane Hessel a semble-t-il touché un point hyper sensible si on en juge les réactions ultra-violentes à son égard. Je t'en prie Daniel. Essaie de faire comprendre à toutes ces personnes qui ne veulent pas voir, qui ne veulent pas entendre, qu'elles aillent en Palestine. Elles verront, elles comprendront. Je te remercie, au revoir.
Oui, bonjour, c'est Gérard de Vienne, en Isère. Je tenais à témoigner par rapport à un répondeur hier, un monsieur très excité et complètement aveugle qui parlait de 11 000 roquettes tirées par le Hamas. Donc tout le monde sait que c'est plus ou moins vrai, qu'il y en a beaucoup de tirées, sauf, il faut dire à ce monsieur, qu'il y a eu, en plusieurs années de tirs de roquettes, 11 morts du côté israélien, qui sont 11 morts de trop, je l'accorde. Mais ce que ce monsieur a oublié de dire, et il fait la sourde oreille certainement, il est obnubilé par la politique israélienne, c'est-à-dire que l'incursion dans Gaza a fait plus de 1000 morts en 3 semaines, 4 à 5000 blessés, et dont certains enfants et des femmes enceintes qui sont handicapées à vie, des dizaines et des dizaines de maisons détruites. Alors il faut quand même faire attention à ce qu'on raconte parce que on veut bien que le Hamas soit pas parfait, tout le monde le sait, mais la politique du gouvernement israélien n'est pas parfaite et loin s'en faut. Donc quand on critique la politique israélienne, on ne critique pas le peuple israélien, on critique la politique du gouvernement israélien et de son armée. C'est tout, merci.
J'entendais ce matin Guillaume Hermer qui se demandait à propos d'Israël et d'autres pays si le boycottage servait à quelque chose. Je ne sais pas si c'est de l'ignorance ou de la complaisance de sa part, mais la question n'est plus là. Est-ce qu'on a le droit en France de parler de boycottage de produits israéliens fabriqués dans les colonies illégales en Palestine ? Eh bien non, on n'a pas le droit. On a cloué le bec à notre grand humaniste qui est Stéphane Hessel. Et ça, c'est de la censure. Notre démocratie vient de prendre une sacrée claque. Hier, Edgar Morin, sur France Inter, suggérait que l'annulation de la conférence venait du haut lieu de l'Élysée. Au revoir.
Bonjour les AMG, bonjour Daniel. Bah alors, hier tu nous as dit que le Mumba n'était connu que par quelques vieux, mais chez moi on est une dizaine de jeunes et on connaît tous par cœur son parcours magnifique et puis ses pensées révolutionnaires, justes et humaines. Juste pour dire que le Mumba représente le vrai Africain décolonisé. Celui qui ne s'est pas laissé avoir par les trompettes de la gloire et de l'enrichissement. Gros bisous, ciao.
Oui, après cette remarquable émission sur Patrice Lumumba, je tiens à vous conseiller la lecture d'un livre, Mes étoiles noires, avec un chapitre consacré à Patrice Lumumba et beaucoup d'autres célébrités noires que nous ignorons complètement dans nos pays blancs. Ce livre bien écrit, très politique, très clair, très facile à lire, est l'œuvre de Liliane Thuram, que vous connaissez bien pour ses exploits sportifs. Il a une fondation, thuram.org, que je vous conseille vivement de visiter sur son site. Ce serait un excellent invité pour là-bas si j'y suis.
Je voudrais ajouter ma pierre au sujet du Congo. Le créateur de Sherlock Holmes lui-même, Sir Conan Doyle, a écrit un livre à ce sujet, Massacre au Congo, je crois. Voilà, c'est une info qui vous vient de Daniel Strasbourg. Ciao, viva, et tous à la manif Palestine, samedi, place Kléber.
C'est pour défendre Mam, notre ministre. En fait, elle voulait vraiment éduquer les flics tunisiens pour pas qu'ils tirent à balles réelles. Elle voulait leur apprendre le maniement du taser. En fait, comme ça, il y aurait moins de morts. Au lieu d'en avoir 60, il n'y en a que 15. Voilà, et au lieu d'être tués volontairement par des balles, ils auraient été tués involontairement par les tasers. Ils auraient eu une crise cardiaque, ça aurait été moins violent, il y aurait moins de morts. En fait, c'est ça. C'est ça qu'elle voulait dire. Que ce soit une gaffe ou que ce soit vraiment vouloir soutenir une dictature, ça la fout mal. Si j'étais elle, je démissionnerais. Et pourtant, je suis de droite. Salut.
Bonjour, je suis Noël, j'appelle de Morlaix, dans le Finistère. Je voulais dire merci à tous ces gens qui mettent des messages. Moi, je me régale. Et puis celui que je viens d'écouter sur Dominique, oh, il faudrait que tout le monde écoute France Inter à 15h. Ah, oh, merci à tous ceux qui déposent des messages. J'en ai entendu des fameux. Jusqu'à présent, je n'avais pas appelé pour le dire. C'est un petit bonheur, c'est comme un petit bonbon. Allez, salut à tous.
Comme un petit bonbon, c'est gentil ce message. Merci à toutes et à tous. On continue aujourd'hui au Congo, à Bruxelles, à Namur aussi, autour d'un mort encombrant. Un mort qui grandit, un géant dormant, nous a dit Ludo De Witt. Patrice Lumumba, pourtant mort il y a 50 ans, assassiné il y a 50 ans, mais on n'en finit pas autour de ce mort. La Belgique se livre une guerre des mémoires depuis des années, mais très très vive ces années-ci. Et évidemment, ce n'est pas sans écho avec ce qui se passe en Tunisie, un protectorat français, la Tunisie, et néo-colonialisme envers la Tunisie, et puis prochainement avec l'anniversaire récemment des décolonisations de l'Afrique noire, mais bientôt anniversaire de la décolonisation en Algérie. C'est des sujets qui vont revenir à nos oreilles et sans doute à nouveau nous diviser, peut-être pas au point où nos amis belges, nos voisins belges se divisent et se déchirent sur cette mémoire-là, et on va l'évoquer aujourd'hui. Auparavant, je voudrais venir un peu au secours de Mam, de Michel Alliot-Marie. Tout le monde dit beaucoup de mal de cette femme absolument remarquable pour une petite... oui, elle a... bon, mais elle n'est pas la seule à avoir une faiblesse pour notre ami Ben Ali. Elle n'est pas la seule, il s'en faut de beaucoup. Un exemple, Monsieur Éric Raoult. Député maire UMP du Raincy, ancien ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion, ministre délégué à la ville et à l'intégration, et qui est président du groupe parlementaire d'amitié France-Tunisie. Voilà quelqu'un de compétent qui sait de quoi il parle. La preuve.
La réélection dimanche dernier du président tunisien Zine El Abidine Ben Ali avec près de 90% des suffrages, vous a-t-elle réjoui?
Berber TV.
Oui, parce que c'est un pays stable.
31 octobre 2009.
Oui, parce que c'est le pays où la classe moyenne est en progression.
Éric Raoult, député UMP.
Oui, parce que c'est un pays qui est ami de la France. Et je serais tenté de dire à ceux qui disent, en persiflant, en ironisant... 90%, d'ailleurs un tout petit peu moins, 89%.
J'ai dit près de 90%.
Près de 90%. Bon, ben, incontestablement, en Tunisie, beaucoup de gens aiment le président Ben Ali. Il ne faudrait pas qu'on soit plus sévère avec la Tunisie qu'on ne l'est avec un pays comme la Libye. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, quand un certain nombre d'observateurs français font de la provocation à l'égard du président Ben Ali, ils savent que quand ils arrivent à Tunis... on les remet dans l'avion, mais ça devient un jeu. Donc en l'occurrence...
C'est-à-dire que le travail des journalistes français, vous faites référence peut-être à la journaliste du Monde qui a été refoulée...
Je n'ai pas cité de nom.
Oui, mais vous pensiez à elle, qui a été refoulée de Tunisie. Vous parlez de provocation, vous aussi?
Écoutez, on sait, on ne peut pas écrire dans son journal que la femme du président est une... ou que le président est un... et puis après, de se dire que les choses...
Elle ne les a pas insultées, hein.
Non, elle ne les a pas insultés, elle a fait utiliser ces mots par d'autres personnes à l'intérieur de son article. Moi, je crois que j'ai fait une proposition, qu'on puisse donner un label « ami de la France ». C'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont des amis de la France. Il faut voir que la Tunisie est un pays qui commerce avec nous.
Vous n'êtes pas choqué hein, par ces entorses à la liberté d'expression?
Il y a une expression démocratique au Parlement britannique, au Parlement français. Mais on est des vieilles nations démocratiques qui avons 200, 300 ans derrière nous. La Tunisie était une colonie française, il y a, enfin pas tout à fait une colonie, mais c'était un pays qui a accédé à l'indépendance il y a maintenant 50 ans. La particularité, c'est qu'on ne crée pas une démocratie en quelques dizaines d'années. Et d'autre part, voir le nombre de jeunes qui sont à l'école, voir l'augmentation de la classe moyenne, voir les femmes applaudir le président Ben Ali, parce qu'elles ont pu voir des fois, dans des pays pas très loin, comme l'Algérie, voir les excès qui peuvent être celles de l'islamisme, eh bien moi je pense qu'on ne peut pas juger. Ça me fait penser, dans les années 60, il y avait parfois un certain nombre de vos confrères qui étaient très, très, très exigeants pour un certain nombre de pays et beaucoup moins pour d'autres. Bon, je crois qu'il faut un équilibre.
Vous dites partout aussi en Tunisie, alors?
Partout, oui, mais partout.
Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a des entorses à la liberté d'expression en Tunisie? Oui ou non?
Je reconnais que la Tunisie n'a pas les mêmes critères démocratiques que nous.
Voilà, c'est une affaire de critères démocratiques. C'était sur Berber... TV, Éric Raoult. Donc, nous, on continue à autour de la mémoire de Patrice Emery Lumumba. Dimanche dernier, à Bruxelles, il y avait manifestation pour le 50e anniversaire de cet assassinat, avec tout un groupe de jeunes, ou moins jeunes, belges, des Congolais aussi, vivant ou venus pour l'occasion à Bruxelles, autour de cette mémoire qui ça fait partie des passés qui ne passent pas. Il y a des choses qui restent obscures, qui veulent sortir à la lumière, et notamment, dans cet assassinat, l'implication de certaines autorités belges à l'époque. L'implication de la CIA est maintenant avérée, reconnue et classée. Très bien. Reste la responsabilité, évidemment, des Congolais eux-mêmes, puisque le pays était indépendant en juin 1960. Il était indépendant et l'assassinat de Lumumba date du 17 janvier 1961, donc voilà, le pays s'appartenait à lui-même, mais enfin, les Belges restaient extrêmement présents. Et toute la question est de savoir les implications des responsables belges et du gouvernement belge de l'époque. Il y a eu une commission d'enquête, il y a eu une reconnaissance de responsabilité morale, mais ça ne satisfait pas ceux qui veulent la justice et que les responsables, s'il y en a, eh bien, soient bel et bien jugés. C'est la demande que formulent les enfants de Patrice Lumumba, autour notamment d'un chercheur qui s'appelle Ludo De Wit, qui est l'auteur d'un livre intitulé « L'assassinat de Lumumba » et qui a cette phrase qui nous a donné envie de travailler sur ce sujet. Je la répète, c'est un exemple ahurissant, il parle de l'assassinat de Lumumba, un exemple ahurissant de ce dont les classes dominantes occidentales sont capables dès qu'elles se sentent touchées dans leurs intérêts fondamentaux. Un assassinat devient alors un moyen pratique et une solution possible. Patrice Lumumba n'est pas le seul mort de cette famille des nationalistes, de cette famille des hommes et des femmes qui, sur cette planète, inlassablement souhaitent l'émancipation de l'espèce humaine. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37.
À l'instant, je vous parle, se déroulent les obsèques de Yannick Chenet. Yannick Chenet, c'était un agriculteur comme un autre, qui a été pris dans la tourmente de cette agriculture intensive, productiviste, chimique et mortifère, et qui est décédé d'un cancer qu'il a contacté il y a 7 ans, après un chemin de croix terrible. Yannick Chenet est mort à 45 ans. Il avait osé témoigner dans un film que j'ai fait qui s'appelle « Severn, la voix de nos enfants ». Je souhaite qu'aujourd'hui, Yannick Chenet ne soit pas enterré dans l'anonymat. Je m'appelle Jean-Paul Jaude, je suis réalisateur, et je me bats pour l'environnement, je me bats comme Severn, que dit Suzuki. Severn, c'est cet enfant qui a parlé au nom des générations futures, à Rio, en 1992, au premier sommet de la Terre. Merci à vous.
Bonjour aux ANG du Sud Ardèche. Vous êtes invité à notre prochain Café Repère qui a pour thème « Faut-il avoir peur de la sécurité ?» À l'heure de la surprotection et des anti-tout, ne commettons pas tout et n'importe quoi au nom de la sécurité. Ou comment les excès sécuritaires finissent-ils par détruire du lien social, de la culture et des emplois ? Faut-il avoir peur de la sécurité ? Nous vous invitons à venir en débattre au Café Repère de ce jeudi 20 janvier au Petit Bistrot à Saint-Montant. Et c'est à 20h30.
Oui, bonjour, vous avez dû tous entendre cette information qui a été relayée en boucle hier sur différentes télévisions et radios, et où on a aussi vu M. Barouin, la main sur le cœur, disant que c'était grâce à la France qu'un chargement de grenades lacrymogènes n'avait pas été expédié en Tunisie. Il a tellement envie, mais tellement envie de récupérer les couillonnades et les boulettes faites par Mme Aliot-Marie, et ils ont tellement envie de cacher leur autisme vis-à-vis des dictatures de Ben Ali, qu'ils savent pas quoi faire, ils savent pas utiliser quel mensonge et quel leurre pour tromper les populations. En fait, ce chargement a été bloqué pour des questions administratives par la douane, pour des questions de sécurité et de conformité par rapport à la législation d'exportation sur ce genre de matériel. C'est seulement quand ça a été bloqué, 3 jours après la chute de Ben Ali, que le gouvernement a été avisé et que l'Élysée a décidé de ne pas autoriser cette livraison. Donc c'est une récupération absolument honteuse, mais honteuse, c'est encore la suite de l'autisme de ce gouvernement vis-à-vis des dictatures. C'est quand même désespérant. Allez, bonne journée.
La République du Congo a été proclamée. Et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants.
combat. Est-ce un fou? Est-ce un héros? Est-ce un dictateur? Qui êtes-vous, monsieur Patrice Lumumba?
Ce matin, 30 juin à 11h, le continent africain a vu naître un nouveau pays indépendant. Désormais, il faudra rayer les cartes et les atlas du nom de Congo belge et le remplacer par celui de République du Congo.
Nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail.
Derrière ces barricades, le diable en personne. Le personnage dont tout le monde continue à avoir peur, Monsieur Lumumba.
Êtes-vous communiste, Monsieur Lumumba?
Je dois toujours rire quand on me pose cette question. Je ne suis pas du tout communiste.
Cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, ni les Congolais dignes de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise.
Salut, c'est Daniel Mermès et là-bas, j'y suis avec Guy Vanctil. Lumumba, un géant dormant.
Flight number 2, arriving from New
York. 50 ans d'impunité,
ça suffit. Lumumba, 50 ans d'impunité, ça suffit. Lumumba, 50 ans d'impunité, ça suffit. Lumumba, 50 ans d'impunité, ça suffit. Lumumba, 50 ans d'impunité, ça suffit. Lumumba, 50 ans d'impunité, ça suffit. Lumumba.
Alors vous présente, pour ceux qui ne connaissent pas, Ludo de Witt,
Bruxelles,
dont l'étude a permis de commencer à faire la vérité et a donné lieu au début de la commission d'enquête parlementaire.
Place du Trône.
Donc je vous passe la parole.
16 janvier 2011.
Il est aussi à l'initiative de la plainte contre les responsables de l'assassinat de Patrice Lumumba.
Oui, comme celui qui conseille les avocats de la famille Lumumba, je vais vous dire quelques mots sur le procès Lumumba. Prochainement, dans quelques semaines, quand la plainte sera introduite ici, dans le bâtiment derrière vous, contre une douzaine de Belges qui étaient impliqués dans l'assassinat de Lumumba, à ce moment-là, la justice peut faire ce que les politiciens n'ont pas fait, c'est-à-dire la possibilité qu'on ne se limite pas à une formule vague et qu'on peut indiquer les responsabilités concrètes des officiers belges, des émissaires, des agents secrets et des diplomates qui ont été coupables de cet assassinat. Et en plus, on peut remonter dans la chaîne de commandement et indiquer les responsabilités concrètes du gouvernement belge de l'époque. Et donc, y incorporer la responsabilité de l'État belge. Et cela, juridiquement, c'est devenu possible depuis 1993 dans le code pénal belge. Il y a des articles, l'article 136 bis et suivante, qui rend punissables les crimes de guerre. Et les crimes de guerre ont été faits dans le cas Lumumba. Et ces crimes sont imprescriptibles. Donc même 50 ans après l'assassinat, ils restent punissables. C'est une loi qui jusqu'à maintenant est seulement appliquée contre des Noirs, contre des Rwandais impliqués dans le génocide rwandais. Et on croit que maintenant, le temps est venu pour aussi mettre des Blancs devant leurs responsabilités. Et donc, il faut que l'opinion publique va suivre ce procès, pas seulement ici en Belgique, mais aussi en Congo. Et il faut des mobilisations pour finir l'impunité. Et en plus, cette reconnaissance judiciaire va aussi signifier une défaite morale, idéologique et politique
pour tous ceux qui ont toujours, et ils sont toujours là, dans la classe dominante, pour ceux qui ont des visées impériales sur les richesses du Congo. Merci. Bravo.
50 ans plus tard, cette voix, c'était dimanche à Bruxelles. Un passé qui ne veut pas passer, que des gens comme Ludo De Wit et d'autres, en Belgique, en République démocratique du Congo actuellement, et ailleurs, espérons-le, dans le monde, ne veulent pas une page qu'ils ne veulent pas tourner comme ça, si facilement. Et c'est vrai que c'est un enjeu capital, tellement cet homme qui fut assassiné ce jour-là représentait une autre voie dans la marche de l'humanité vers son émancipation. C'était la voix d'un homme qui voulait se débarrasser du joug colonial, vraiment, définitivement. Comme d'autres, il y a eu toute une pensée, je pense à Fanon, mais on peut penser à beaucoup d'autres, qui ont cherché ça. Et bien sûr que ceux qui voulaient conserver cette domination coloniale ont trouvé des moyens, et l'un des moyens, ça a été l'indépendance. Ça a été de donner trop précipitamment l'indépendance à ces pays-là, à ces peuples-là, de façon à ce qu'ils soient dans l'incapacité de gouverner des pays aussi énormes et complexes que les leurs, et de façon à pouvoir rester là, de façon à pouvoir continuer une domination, mais indirecte, en étant dans les coulisses au lieu d'être sur la scène, mais en tenant absolument les ficelles économiques, les ficelles politiques. Et au fond, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé pour le précaré français, pour la France-Afrique, et c'est ce qui s'est passé très longtemps pour le Congo belge. Dans les années qui ont suivi l'indépendance, la Belgique, à travers la Société Générale de Belgique, contrôlait à 80% l'économie du pays et a gardé la main sur les ressources. On l'a vu, bien sûr, avec la sécession du Katanga. Le Katanga est l'une des provinces du Congo, mais c'est la plus riche. C'est celle où il y a le plus de ressources, notamment le cuivre. Et c'est dans ces parties-là que les investisseurs belges étaient les plus nombreux, les plus puissants, et entendaient garder cette part du magnifique gâteau africain, pour reprendre l'expression de Léopold II, dont nous parlerons dans les émissions à venir. J'ai sous les yeux ce que Jean-Paul Sartre disait, dans l'année suivante, l'année qui a suivi la mort, l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, la pensée politique de Patrice Emery Lumumba. Et Sartre, évidemment, n'a pas manqué de souligner, de saluer cet étonnant discours qu'on a entendu hier. Rarement dans l'histoire humaine, dans l'histoire politique, un discours aura eu autant d'importance que celui prononcé le 30 juin 1960 par Patrice Lumumba. On voit le roi Baudouin, rigide, majestueux, faire un discours tout à fait convenu, paternaliste, commençant par saluer la mémoire, justement, de Léopold II. Et puis comment, alors que ça n'était pas prévu, comment Lumumba va faire ce discours véritablement de rupture, véritablement révolutionnaire, qui va jeter la consternation et en même temps sceller son sort. Il faut se débarrasser de ce type-là, on peut pas garder ce type-là. Il faut s'en débarrasser. Alors aujourd'hui, on pinaille politiquement, physiquement, on fait semblant de croire que ces propos étaient sibyllins, mais il faut s'en débarrasser. Et pour s'en débarrasser, on va dire qu'il est communiste. À l'époque, c'est la guerre froide. Un communiste, c'est comme un islamiste aujourd'hui, c'est-à-dire le diable lui-même. Et ça va être l'argument, ça va être la justification, ça va être la justification pour les services américains, ça va être la justification pour le pouvoir belge, ça va être la justification pour l'opinion, aux yeux de l'opinion et aux oreilles de l'opinion mondiale. J'étais jeune à cette époque-là, mais pour moi encore, l'idée que de rapprocher le mot Lumumba de communiste ou de soviétique, c'est très difficile de séparer ces deux mots-là. C'était un effet pur et simple de la propagande. On va évoquer à nouveau aujourd'hui en deuxième partie cette mémoire et cette figure. Mais je ne résiste pas, avant de commencer à répéter les phrases de ce discours de Lumumba. Cette indépendance, disait-il, s'adressant au roi, mais pas seulement au roi, il s'adressait à l'assemblée qui était là, et finalement à tous les Congolais, finalement à toute l'Afrique dominée, cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte que nous l'avons conquise, une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privilèges, ni nos privations, ni nos souffrances. Bakanga kinga bandeko, bapekisa kinga bandeko, kombo ya Lumumba na lobate, Mobutu andimi alobi na loba. Patrice Lumumba est mort. Banyokola kinga bandeko. S'il est la victime d'un assassinat politique, nous condamnons énergiquement un pareil attentat. Nakoma kinde kobima na tango basu yona mandefo yon nationaliste Mobutu apekisi kitribalisme. Nom de l'armée nationale, je peux vous garantir.
Joseph Désiré Mobutu.
Que pour moi, M. Lumumba est un homme fini.
Vous pensez donc qu'il n'a plus aucun rôle politique à jouer au Congo?
Il est bien là où il est pour le moment, n'est-ce pas, pour, en attendant son jugement. Oh, Mobutu.
Oh, Mobutu, Lumumba kufe la indépendance économique. Elongi ya Mobutu, pembeni lokola elongi ya Lumumba.
Le drapeau communiste est affalé. L'armée congolaise vient de destituer le premier ministre ultranationaliste Patrice Lumumba et expulse les représentants de Moscou. Documents, tracts et brochures de propagande soviétique sont brûlés, mettant un terme provisoire à l'intrigue communiste contre les Nations Unies. Âgé de 30 ans, le général Joseph Désiré Mobutu se présente comme le nouvel homme fort de la jeune République. Il bénéficie du soutien de la majorité des troupes congolaises.
Patrice Lumumba est mort. S'il est la victime d'un assassinat politique, nous condamnons énergiquement un pareil attentat. Parce que Patrice Lumumba est mort, victime des déchirements du Congo, le gouvernement et l'opinion belge voient leurs drapeaux et leurs ambassadeurs insultés et menacés.
D'abord, pendant que M. Lumumba prononçait son discours,
RTB,
la consternation allait croissant dans les milieux belges et internationaux.
30 juin 1960.
Du côté belge, on ne cachait pas de l'irritation devant ce que l'on considérait comme une incartade difficilement admissible. Certains observateurs en venaient à se demander s'il ne serait pas préférable que le roi rentre immédiatement à Bruxelles.
Et le roi est rentré à Bruxelles, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Bien évidemment, elle continue jusque aujourd'hui. Je parlais de guerre de mémoire. Eh bien, si l'on se rend à Namur, au cercle royal namurois des anciens d'Afrique, on rencontre là des gens qui ne partagent pas du tout, mais alors pas du tout, le point de vue de Ludo de Witt.
qui sont tout simplement des nostalgiques de la colonisation, qui défendent cette colonisation d'un bout à l'autre, que ce soit l'époque de Léopold II, que ce soit la colonisation jusque dans les années 60. Ils y consacrent un musée, un petit musée entier, et ils se battent, ils sont prêts à défendre bec et ongles cette mémoire belge. N'oublions pas que la Belgique est une monarchie.
Alors, c'est le 50e anniversaire de la mort de Patrice Lumumba, donc vous étiez là à cette époque-là.
Oui, monsieur. Tout à fait, oui, on était là. Mais Lumumba finalement a eu une conduite assez décevante pour nous. D'abord, il a pris la parole à un moment où il n'était pas question qu'il la prenne, c'est-à-dire au moment des fêtes de l'indépendance. Il était prévu que le président prenne la parole.
Et le roi a pris la parole.
Le roi a pris la parole.
Le président a pris la parole.
Tout à fait. Et puis Lumumba a pris la parole alors que ce n'était pas prévu. Il a parlé de guerre, d'indépendance et qu'ils avaient été massacrés, etc. C'est vraiment pas vrai.
Il n'y a pas vraiment eu. Vraiment pas vrai. Ce qu'a dit Lumumba.
Il n'y a pas eu de guerre d'indépendance.
Alors sur les documents, on voit l'assemblée qui se lève et qui l'applaudit.
Ben ça, monsieur.
Les tribuns sont toujours applaudis. C'est très facile de manipuler le peuple. Hein.
Vous savez ce que les politiciens ont promis juste avant l'indépendance, que le jour où il y aurait l'indépendance, les Noirs pourraient rouler dans les voitures des Blancs, qu'ils pourraient habiter les maisons des Blancs et qu'ils pourraient se taper leurs femmes. Alors, vous, petit Noir de brousse, se dire, ben, vous allez pouvoir vous taper toutes les femmes européennes qui sont là, vous acclamez, évidemment.
Hein. C'est ce qu'avait promis Lumumba.
Tous les hommes politiques congolais avaient promis ça.
Et Lumumba en particulier.
Il l'a dit dans un discours.
Bien sûr, dans les meetings.
Mais vous parlez de Lumumba, pour nous c'est malheureusement un épiphénomène. Finalement, Lumumba a été destitué par les siens. Hein. Ce ne sont pas les Belges qui ont destitué Lumumba. Hein. C'est Mobutu qui a destitué Lumumba. Kazavubu qui a destitué Lumumba. Bon, écoutez, ça c'était de la politique congolaise qui ne nous regarde pas finalement. Mais Lumumba s'est mis à dos tout le monde en 1960, alors que des puissances étrangères ont essayé d'éradiquer son existence. C'est clair.
Existence politique.
Politique.
Existence politique. Si vous lisez les documents...
De la CIA, vous voulez dire.
Notamment de la CIA, il fallait l'éliminer politiquement.
Alors voilà, ici on est dans un, vous avez compris, dans un foyer qui défend... absolument bec et ongles la responsabilité belge. C'est une affaire au Congo congolais. Ce sont des Congolais, c'est leur histoire à eux, leur pays était indépendant, c'est eux qui ont abattu Lumumba et voilà tout, tournons cette page, oublions ça, etc. Comme si, évidemment, les autorités belges avaient brusquement, entièrement disparu. Alors, on se traite de révisionniste, on se traite de négationniste, et on verra en avançant la part, peut-être, de vérité là-dedans, lorsque nous rencontrerons Monsieur Brassine, le chevalier Brassine de la Buissière. Oui, je vous le disais, la Belgique est encore une monarchie. Pour comprendre un peu mieux, on retourne au Katanga, on retourne à une soixantaine de kilomètres de Lubumbashi, à Chilatimbo, avec le professeur Guillaume Kongolo, qui est historien, et on est sur le lieu où Lumumba et ses deux collègues ont été abattus. C'est dans un paysage tout à fait quelconque, il y a très peu de traces, un petit mémorial, mais extrêmement discret, sous la pluie.
Est-ce que c'est un lieu de pèlerinage ici? Nous, on est là. Est-ce que les gens viennent beaucoup ici, souvent, ou...
Je ne pense pas. Je ne pense pas que... C'est surtout lorsqu'on s'approche du 17 janvier...
Chaque année.
Que les gens viennent. Il y avait le projet pour en faire un lieu de mémoire, mais en fait, les projets se sont étiolés très rapidement. Ça s'est
arrêté. Alors, c'est quand même pas grand-chose. Il y a quelques briques rouges, un carré de briques rouges, le début d'un socle, et puis une couronne de fleurs artificielles. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Tout ça sous la pluie, c'est quand même pas un grand hommage pour un homme aussi célèbre qui est devenu le symbole de l'indépendance et du nationalisme noir.
Oui, je partage votre regret, s'il faut l'appeler ainsi. Il faut dire que, s'il faut contextualiser les choses, c'est que c'est en 2004 que, pour la première fois, le gouverneur de province à l'époque, Ngoï Moukena, va s'intéresser à connaître les lieux où on avait assassiné Lumumba. Il va tenter une démarche auprès de Papa Kiboué, qui avait été témoin oculaire, qui ne va pas accepter de venir lui montrer les lieux. Et finalement, il pourra se rabattre sur le fils du chef de terre, qui était, disons, des passages ici, ayant suivi les coups de feu, et passant par ici, il va trouver comme un remue-ménage sur le sol. On dirait qu'on avait creusé une fosse, mais en regardant, il voit un bout de pied. Il y a quelqu'un qui était dehors. Tout de suite, il panique, il s'est dit, mais en fait, on a tué des gens, on les a enterrés ici. Alors, il est paniqué, il court vite voir le ministre de l'Intérieur, le ministre Mnongo à l'époque, pour lui dire, écoutez, dans mon fief, là-bas, sur ma terre, il y a des bandits qui ont tué quelqu'un et ils l'ont jeté dans une fosse. Et il y a un bout de pied que moi, j'ai remarqué, qui est dehors. Le ministre Mnongo a compris tout de suite que le chef de terre a découvert l'endroit où on avait enterré les corps de Lumumba. C'est ainsi que très rapidement, ils vont s'organiser pour faire déterrer les corps et rapidement les amener plus loin, sur la même route bien sûr. C'est la route qui mène aussi vers Bunkaya. Alors on va les prendre dans un camion le lendemain pour pouvoir les ramener un peu plus loin avec des damjans d'acide sulfurique où on va finalement les couper et le mettre dans l'acide sulfurique. Celui qui l'avait fait a déjà fait témoignage depuis 1999. Il a raconté lui-même les récits de comment cela s'était passé.
Voici tout d'abord un aperçu de nos principales informations.
Radio Congo.
Le traître Lumumba et ses co-détenus Okito et Mpolo se sont évadés la nuit dernière de leur lieu de détention au Katanga.
21 février 1961.
Aujourd'hui, à 11h50, M. Godefroy Mounongo a tenu une conférence de presse dont nous vous donnons la lecture intégrale en raison de la gravité des événements auxquels elle a trait.
Voilà l'archive concernant la mort et l'exécution de Lumumba et d'Okito Mpolo et ses propos tenus par notre professeur congolo au Katanga. Il vient d'évoquer ce truc macabre, épouvantable, on a mis les restes des corps dans l'acide, etc. Et en 1999, dit-il, on a quelqu'un a révélé qu'il avait encore les dents de Lumumba. Et c'est vrai, de recherche en archives, de reportages, en témoignage, peu à peu, des choses extraordinaires surgissent qui passionnent nos voisins belges. Et on va essayer de s'approcher de ces preuves et de ces mystères qui ont quelque chose de macabre, avec une pointe quand même de surréalisme belge. On est quand même au pays du surréalisme. On retrouve Ludo De Witt. Alors là, c'est le 50e anniversaire de l'assassinat de Lumumba, le 17 janvier 1961. L'année dernière, il y a eu une cérémonie d'hommage à Lumumba, à Ostende, accompagnée par une fanfare kimbanguiste. On a rendu hommage à Lumumba devant la mer du Nord parce que on avait découvert que deux dents de Lumumba avaient été jetées dans la mer du Nord par quelqu'un qui avait assisté à l'assassinat de Lumumba. Est-ce que vous pouvez m'éclairer là-dessus? Parce que je crois que vous êtes à la base de cette histoire.
Bon, j'ai publié mon livre sur l'assassinat de Lumumba fin 99. Et suite à la publication, il y a des journalistes qui ont été trouvés, le commissaire de police belge, qui à l'époque était au Katanga, où Lumumba a été assassiné. Ce commissaire de police n'a pas assisté à l'assassinat, mais il a coupé en morceaux le corps de Lumumba et l'a fait disparaître dans un bain d'acide sulfurique.
Ça, il l'a dit, il l'a reconnu.
Il a confirmé ce récit. Et en plus, il a montré deux dents de Lumumba qu'il avait gardées chez lui comme une sorte de trophée.
Il l'a montré devant les caméras, la télévision.
Cette scène a été filmée, et donc c'est une scène qui est intégrée dans un documentaire de la télévision allemande, un documentaire qui s'intitule « Mort im Kolonialstil ».
Ici, j'ai le reste
Arte 2008.
D'une personne historique très importante.
Et c'est tombé ou vous l'avez
arraché.
Gérard Soet, chef de la police du Katanga.
Il avait une denture, une très bonne denture. Oui, voilà. C'est couvert avec de l'or hein, derrière. Donc un dentiste est identifié ça. Hein. Il m'a déjà fait jurer beaucoup à ce Lumumba, il me fait encore jurer maintenant.
Qu'est-ce qu'il vous a fait jurer ?
Lumumba ?
Oui.
Réfléchissez qu'on vient de vous dire on a tué Lumumba et maintenant vous devez le faire disparaître. Dans un pays qui n'est pas le vôtre. Et il y en a même qui croient qu'il va revenir. Hein. Mais là, il doit venir avec deux dents de moins devant.
Il était commissaire de police dans le Katanga sécessionniste, le Katanga indépendant. Et donc après l'assassinat, on lui avait demandé de faire disparaître les corps. Et c'est ce qu'il a fait avec son frère. Ils ont donc coupé en morceaux les trois cadavres de Lumumba et ses deux compagnons, dissous dans une bain d'acide sulfurique. Il avait donc gardé dedans de Lumumba chez lui, qu'il montrait de temps en temps à ses amis et qu'il gardait un peu comme un chasseur qui met son pied sur le cadavre de l'animal battu, comme un trophée. Je lui ai demandé de restituer ses dents, il n'a pas voulu, il ne voulait pas qu'il y aura une sépulture pour Lumumba. Et d'ailleurs, il m'a dit, mais maintenant je suis beaucoup emmerdé par des journalistes qui viennent partout me demandant de montrer les dents et tout, j'en ai marre. À partir de maintenant, je vais leur dire que je les ai jetés dans la mer du Nord. Mais... Et c'est ce qu'il a fait après donc, hein. Il a commencé à dire qu'il les a jetés dans la mer du Nord. Mais j'en suis convaincu que ça c'était un stratagème pour plus avoir des emmerdements par des journalistes qu'il les a gardés chez lui. Il ne voulait pas se débarrasser de ses dents. Il y avait quelqu'un qui a introduit une plainte contre lui dès qu'il savait qu'il avait ses dents. Mais la justice de Bruges, où il habitait, a refusé d'intervenir et d'organiser une perquisition à cette époque-là. Et après ce type, il est mort. Donc on ne sait pas où sont les dents. Moi, je suis convaincu qu'il les a gardées jusqu'à sa fin, quelque part.
Si, selon vous, elles n'ont pas été jetées dans la mer du Nord, comme ce type vous l'a dit, alors à quoi ressemblait cette cérémonie devant la mer du Nord avec cette fanfare pibanguiste ?
Oui, mais c'est un acte symbolique. Hein. Il a dit aux journalistes qu'il les avait jetés dans la mer du Nord. Et donc, en quelque sorte, je crois que cette cérémonie, c'est quand même important pour continuer à indiquer le fait qu'une partie du corps du Premier ministre assassiné a été gardée pendant des décennies ici, en toute impunité. Et que chaque année qu'on a une commémoration de ce fait, quoi, du fait que l'État belge a toujours protégé ceux qui étaient impliqués dans cette affaire. L'officier belge qui a commandé le peloton d'exécution, qui a assassiné Lumumba, ce commissaire belge a été transféré quelques semaines après l'assassinat vers la Belgique. On lui a donné une nouvelle identité, on lui a donné un nouveau nom, et on l'a transféré dans une caserne belge en Allemagne de l'Ouest. Tout ça pour le protéger. Et donc cette protection a vraiment joué pour tous les Belges qui étaient impliqués dans cette affaire. Et c'est pour ça que c'est important que maintenant on utilise une loi qui a été votée en Belgique en 93. Et c'est une loi qui intègre le droit humanitaire international dans le code pénal belge, pour lesquels qu'il n'y a pas de prescription. C'est une loi aussi qui, jusqu'à maintenant, a seulement été utilisée contre des Africains qui ont joué un rôle dans le génocide au Rwanda. Et donc, c'est quand même important maintenant que cette loi est aussi utilisée contre des Blancs qui ont joué leur rôle dans cette affaire-là.
Lumumba, c'est un temps d'impunité, ça suffit. Lumumba, c'est un temps d'impunité, ça suffit. Lumumba, c'est un temps d'impunité, ça suffit. suffit. Lumumba, c'est dans l'impunité. Ça suffit.
Alors pour l'instant, la liste des personnes visées, poursuivies n'est pas encore publiée, mais j'ai rencontré une personne qui très vraisemblablement figurera sur la liste des personnes poursuivies, très probablement, sans que j'aie de certitude. Et je peux vous dire que ce monsieur n'est pas rassuré du tout. Et il se pourrait effectivement qu'on arrive au terme de cette longue, longue poursuite sur la vérité, sur l'assassinat de Patrice Lumumba. Mais on va revenir un petit peu. Là, on a eu la version de Ludo De Wit sur cette histoire étonnante de dents retrouvées, jetées dans la mer du Nord, cette cérémonie avec une fanfare kimbanguiste, etc. On va voir une autre version de la même chose. Eh oui, c'est ça une enquête, c'est qu'on a des versions différentes. Celle d'un excellent chercheur qui, lui, s'est plutôt consacré, on le retrouvera dans les jours prochains, à la trace de Léopold II, au Bruxelles de Léopold II, mais qui, sur cette histoire de découverte macabre, entre le trophée et la relique, c'est-à-dire les dents de Lumumba, a aussi son point de vue et son histoire belge.
C'est un commissaire belge, Gérard Soute, qui a donc mis le corps de Lumumba et de ses deux compagnons dans de l'acide, et donc tout a disparu, sauf, il paraît, deux dents de Lumumba qui étaient en or, qu'il a gardées comme souvenir. Et au début des années 90, il se vantait dans la presse flamande qu'il avait encore ses dents de souvenir. Et ça passait à la télévision, dans les grands hebdomadaires, et il a pris peur parce qu'il a dit « c'est une preuve matérielle que j'ai été complice de cet assassinat ». Donc il a pris peur. Et il avait 82 ans à ce moment-là, et il a dit « J'ai pris mon petit bateau à Blankenberg, à côté d'Ostende, je suis allé en mer et je l'ai jeté en mer ». Ça, c'est le mythe. Et en fait, avec le collectif Mémoire coloniale, l'année dernière, on a fait toute une cérémonie, là, à la mer du Nord, jeter des fleurs à l'endroit où, soi-disant, les dents de Lumumba étaient déposées dans la mer du Nord. Mais il y a plusieurs choses qui nous font douter de cette histoire. Parce que premièrement, les gens qui le connaissent là-bas et son petit bateau, ils ont dit un homme de 82 ans, avec ce bateau-là, il n'a pas pu aller en mer pour jeter les dents. Deuxième chose était qu'il a été interviewé après par la télévision allemande, et là il a suggéré qu'en fait ils étaient enterrés dans son jardin, en dessous du petit banc où il prenait sa douche de soleil chaque jour pendant l'été. Et donc, probablement, ils sont là. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu chercher les dents de Lumumba en tant que collectif, et aussi d'autres gens ont voulu faire ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ce monsieur Soute, c'était un vieux réactionnaire catholique, mais à 82 ans, il est tombé amoureux d'une vieille dame. Ils ont fait leur voyage de noces à Lourdes, et là, dans le lit nuptial, il a succombé à ses amours, une crise d'attaque.
Si près du bon Dieu.
Si près du bon Dieu, mais comme ça, la maison a été vendue. Et donc, c'est difficile maintenant d'aller demander au nouveau propriétaire, surtout parce que le nouveau propriétaire, c'est un dentiste.
C'est une femme extraordinaire.
Mais non, c'est une histoire belge, mais vraie, je crois.
Camarade, ça va?
Moi, pas ça va, camarade.
Ah? Tu comprends français?
Moi, pas connais français. Tu reconnais?
Oye, oui, bilingala.
Moi, t'es pas. Yébite, lingala, t'es.
Allez, viens, on va prendre un verre, allez.
Moi, bois pas. Tu bois beaucoup?
Ah, ah, les bonnes vies. Moi, comprends pas français. Ah, ah, Brazzaville. Moi, comprends pas français. Ah, ah. Moi, parler pas lingala. Ah, ah, mes amis. Moi, comprends pas lingala. Tu bois beaucoup et tu bois beaucoup. Tu bois beaucoup et tu bois beaucoup.
Tu comprends français.
Moi, pas comprends français.
Oye, bilingala.
Naye, bite. Naye,
Ah oui, il y a de jolies petites chansons comme celle-là qui sont pas sans rappeler Tintin au Congo. Tintin au Congo, on se retrouve demain pour la suite de ce reportage autour de la mort et l'assassinat de Patrice Lumumba. C'était il y a 50 ans, c'était un reportage avec Guy Vantil. Merci à Ludo De Vit, Antoine Chitungu, Lucas Catherine et au collectif Mémoire Coloniale et au professeur Guillaume Congolo du Katanga. Merci à Jacques Brassine, Jean-Paul Rousseau et Paul Vanesse. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org et faire les commentaires que vous souhaitez. À la technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Alain Arnstam. Koye Nguyen et Franck Adéré ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Lebot et Marina Touillez attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis. Au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Je rappelle, parce que je n'en ai pas souvent l'occasion, il me reste 30 secondes, le principe des repères de là-bas, si j'y suis. Vous entendez des repères, vous dites, qu'est-ce que c'est? Il y a des nouveaux auditeurs tout le temps. Il y a 100 000 auditeurs de plus qui nous ont rejoints depuis la fin octobre. Eh bien, les repères de là-bas, si j'y suis, c'est... Vous avez dans votre quartier, dans votre village, des voisins qui peut-être écoutent France Inter aussi, c'est bien possible. Et là-bas, si j'y suis, vous dites, tiens, j'aimerais bien les rencontrer. Alors c'est très simple, vous trouvez un bistrot sympa, vous nous envoyez un message sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, et vous dites, voilà, je donne rendez-vous à ceux qui voudront bien venir tel jour. Ça s'appelle un repère de là-bas, si j'y suis. Et ça marche, il y en a 100, 140 exactement en France, et pas seulement en France. Voilà. Il est 16h sur Inter, pub.
France Inter, partenaire du festival Suresnes Cité Danse du 7 au 30 janvier 2011. Pour cette 19e édition, plus de 100 danseurs et chorégraphes venus du monde entier. Le ballet national algérien, Abou Lagra, Blancali, Storm, les Raf Crew, le hip-hop dans tous ses états, à retrouver dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
Voilà, 16h30 sur Inter. Demain à 15h, on se retrouve pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin. Salut.
Après la Suisse, l'Union européenne décide à son tour de geler les avoirs de l'ex-président tunisien Ben Ali et de ses proches. Un accord préliminaire a été trouvé lors d'une réunion à Bruxelles. Les 27 attendent maintenant de la part des autorités tunisiennes une liste précise des personnes à cibler pour ces sanctions. Et puis à Tunis, le premier conseil des ministres du gouvernement de transition a commencé peu après 14h. À l'ordre du jour, notamment la préparation dans un délai de 6 mois des élections présidentielles et législatives. Pendant ce temps, les manifestants réclament toujours la dissolution du RCD, le parti de l'ex-président. Ils sont 2000 massés depuis ce matin devant le siège du parti à Tunis. Et tout un symbole, des ouvriers démontent l'enseigne géante qui indique en arabe le sigle du RCD. Ce matin, tous les ministres du gouvernement qui en faisaient partie ont démissionné du RCD. La plus haute institution de l'islam sunnite, Al-Azhar, dont le siège est au Caire, suspend ses réunions avec le Vatican. Elle reproche au pape Benoît XVI des remarques qui attaquent l'islam. Les réunions côté le Vatican dit vouloir poursuivre le dialogue. Les militaires ouest-africains sont prêts à intervenir en Côte d'Ivoire et n'attendent plus que le feu vert politique. Déclaration d'un général nigérian à l'issue d'une réunion des chefs des armées d'Afrique de l'Ouest à Bamako. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a de nombreuses fois menacé d'une intervention militaire pour chasser Laurent Gbagbo du pouvoir. En Irlande, il y aura des élections législatives anticipées le 11 mars prochain. Le Premier ministre Brian Cowen va dissoudre le Parlement. Il a été contraint à cette décision par ses alliés verts qui protestent contre l'appel de l'Irlande au FMI et à l'Union européenne pour sauver son système bancaire. Au Brésil, le bilan des morts dues aux pluies torrentielles près de Rio s'alourdit à 744 victimes. Il y a également 200 disparus et près de 14 000 sans-abri. L'inquiétude est très vive sur le sort de Laetitia, cette jeune fille de 18 ans, disparue à Pornic en Loire-Atlantique. Des traces de sang ont été découvertes dans la voiture de l'homme interpellé ce matin par le GIGN. Après sa disparition dans la nuit de mardi à mercredi, la jeune fille aurait passé un coup de fil à sa famille adoptive pour lui dire qu'elle avait été violée. Les gendarmes poursuivent leurs recherches intensives, notamment près du domicile du suspect. L'homme est connu des gendarmes pour avoir déjà commis des actions criminelles graves. Malgré la mobilisation des associations, un couple kosovar en situation irrégulière, placé depuis 10 jours en centre de rétention avec leur enfant de 13 mois à Lyon, a été expulsé ce matin vers Pristina. Arrivé illégalement en France fin 2008 et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, la famille logeait dans un foyer de l'Ain. La famille sera prise en charge à son arrivée à Pristina, précise la préfecture. Dans les Hautes-Alpes, 2 snowboarders néerlandais coincés dans des barres rocheuses sur un secteur hors-piste ont fait preuve de présence d'esprit. Ils ont tracé un grand SOS dans la neige, ce qui leur a permis d'être retrouvés sains et saufs.
De ces rimes féminines aux assassins sans couteau, en passant par quelques bijoux et babioles,
Charlotte Lipinska.
Juliette honore la chanson française depuis plus de 10 ans. Elle est notre invitée ce soir, en compagnie de son camarade Jean Guidoni, qui lui chante Prévert et ses étranges étrangers.
Voulez-vous sortir avec moi, ce soir sur France Inter, à partir de 23h?
On vous attend.
Entrée libre et gratuite à partir de 22h30, dans la limite des places disponibles.
France Inter, partenaire de l'exposition L'Antiquité rêvée, au Louvre jusqu'au 14 février. À travers peintures, sculptures et objets d'art, la nouvelle exposition du Louvre montre comment l'antique a inspiré les artistes et la société dans toute l'Europe du XVIIIe siècle. Retrouvez L'Antiquité rêvée au musée du Louvre dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
France Inter. France Inter.
La différence.
16h05 sur France Inter, l'heure de retrouver Frédéric Lodéon et le carrefour de Lodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Corinne. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Hier, vous avez peut-être entendu Nathalie Dessay, ici même dans ce studio, et j'avais promis de proposer des disques, de ces disques évidemment. L'enregistrement s'appelle Cléopatra, c'est Handel qui est en jeu. Les rôles de la grande Cléopâtre dans cet opéra, le plus fameux d'ailleurs de Handel, Jules César. Et bah, je vais vous faire entendre d'abord, je sais que vous affûtez vos doigts pour taper le numéro de France Inter, vous avez bien raison. Donc je vais le dire tout de suite quand même pour ceux éventuellement qui ne le connaîtraient pas. On va entendre d'abord une Symphonia, donc une ouverture tirée de Jules César et précisément de l'acte 2. Et 50 CD sont à gagner, voilà, le chiffre c'est ça, 50 CD, vous appelez bien sûr le fameux numéro de France Inter, 01 45 24 7000. À tout de suite. Thank you. Symphonia, passage instrumental de Jules César en Égypte, de Georg Friedrich Händel. On a entendu les corps à rude épreuve, mais enfin, ils s'en tirent très bien. Et d'ailleurs, ça ressemble un petit peu à la Water Music du même Händel. Évidemment, c'était des musiques pour la Water Music, une musique de plein air, destinée à être jouée sur la Tamise en plus. Il fallait que ça sonne, alors il y a des corps. Mais là aussi, même pour un opéra, mais on sent, on entend que Händel aimait bien ses instruments. Il devait quand même avoir un peu peur. C'est vraiment difficile, aigu, et il y a des tremblements, des tris dont on a déjà parlé ici hier. Donc des figures pas tout à fait simples à exécuter. Mais on peut donc féliciter les membres du concert d'Astrée, dirigé par Emmanuel Haïm. Et maintenant, nous allons entendre la personnalité centrale de ce disque, Cléopatra, incarnée par Nathalie Dessay. Et Nathalie Dessay, elle se plaint parfois aussi, elle se bat, elle...